Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Quelle solitude, et même quelle ultra moderne Corona solitude. Elle ne sait plus où elle habite, celle qu'un cliché a homologuée plus belle du monde. 1,910 km de long, 70 mètres de large, 14 juillet. Complètement déserté, oh tristesse.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
Oh les Champs-Élysées désertés pour la première fois depuis plus de 40 ans, fête nationale et pas l'ombre d'un soldat, d'un blindé, d'un uniforme, d'un cheval sur la plus vide avenue du monde. Aujourd'hui, il n'y en aura que pour le ciel, les champs vont-ils se consoler ? Comment continuer à s'embrasser et même à coucher ? Du côté de Montpellier, le feuilleton de France 2, Un si grand soleil, a repris le cours de sa vie et donc de ses tournages. Son producteur Thomas de Mattei vient nous raconter comment ça se passe avec Virus. Tous les invités sont en i d'ailleurs ce matin. Dans une dizaine de minutes, le journaliste Fabrice Arfi vient nous présenter le nouveau format du Pure Player d'investigation Mediapart. Et puis après 10h, nous serons en compagnie du comédien et metteur en scène de théâtre Thomas Joly, à la tête duquel le Centre Dramatique National d'Angers. Il a conçu une programmation Corona compatible qui commence demain, oui, du théâtre quand même. Belle matinée à vous sur Europe 1, Culture Média d'été jusqu'à 11h, le jour de gloire est arrivé. Belle matinée. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Place au journal des médias, qu'avez-vous au sommaire ce matin ?
Game over pour Ubisoft, game over pour Génération Identitaire et game over pour Energy Group.
Et immédiatement, ouais, les audiences.
Vous les attendez chaque jour avec impatience, je le vois. Hier, c'est TF1 et qui s'impose avec sa série Camping Paradis. 2 800 000 téléspectateurs, 15,5% d'audience. France 3 est juste derrière avec cet hommage à Ennio Morricone. Le film Le Professionnel était diffusé sur France 3. 2 millions de téléspectateurs, 11,5% du public. Pardon ?
Belle.
Arte aussi, qui faisait hommage à Ennio Morricone, Il était une fois la Révolution, a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs. Belle soirée donc en perspective hier.
Culture Média.
Et l'on commence Martin sur le journal des médias avec Ubisoft qui plonge en bourse.
Les marchés viennent de copieusement punir le groupe français de jeux vidéo. Moins 5% hier à la fermeture du CAC 40. Alors moins 5%, on pourrait se dire qu'après tout, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même un recul de 470 millions d'euros. Les gros actionnaires et les boursicoteurs n'ont pas du tout apprécié apprendre ce qui se passait en coulisses. Parce qu'en coulisses chez Ubisoft, eh bien, ce n'est pas reluisant. Les managers se laissent aller à du harcèlement moral, à de la misogynie, pire, à du harcèlement sexuel. Ubisoft, dirigé par une équipe machiste, et toute personne, des femmes en l'occurrence, qui osent se plaindre, eh bien toute personne est priée de se taire ou de quitter le navire. Ce week-end, le PDG a tenté de sauver la face. En quelques minutes, il a mis à la porte le numéro 2, la directrice des ressources humaines et plusieurs concepteurs stars de la maison. Ubisoft le confesse volontiers. Nous avons beaucoup, beaucoup de travail devant nous. Ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Ubisoft, on le rappelle quand même, c'est l'un des leaders dans le monde, créateur d'Assassin's Creed, de Just Dance, une fierté française présente dans 30 pays sur les 5 continents. Ses 18 000 salariés désormais sont appelés à prendre la parole pour dire « ça suffit ».
Ubisoft fait le ménage, Twitter aussi, on en parlait la semaine dernière, le réseau social fait le tri chez ses abonnés et ça continue.
Génération Identitaire sur Twitter, c'est fini. Le réseau social est en train de fermer un à un tous les comptes de ce groupuscule d'extrême droite. Twitter veut continuer à faire voir qu'il a grandi et qu'il ne tergiverse plus avec la haine en ligne. Vous me direz, il était peut-être temps, parce que cela fait des années que ces militants d'extrême droite ont été condamnés par la justice à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Parmi ces militants actifs sur les réseaux sociaux, il y a par exemple Paul, 23 ans, étudiant à Dijon. Il se sent très menacé.
J'ai décidé de m'engager à Génération Identitaire pour rencontrer des jeunes qui, comme moi, sont impactés par l'immigration, sont impactés par l'islamisation de leur pays et veulent la défense de leur identité.
Cette vidéo, elle n'est plus disponible, le compte Twitter est donc fermé, mais la chaîne YouTube du groupuscule d'extrême droite, elle est toujours active avec tout de même 15 000 abonnés.
La chaîne d'information Euronews continue de chercher.
Euronews change d'avis et conserve sa chaîne africaine, Africa News. Alors Africa News, c'est tout de même 21 millions de foyers qui chaque jour peuvent la regarder en français. C'est aussi une rédaction d'une cinquantaine de personnes qui travaillent depuis le Congo. Mais tout est piloté depuis Lyon, ce qui coûte très cher d'avoir un pied ici, un pied là-bas. On vient donc de demander aux journalistes africains de déménager avec leur famille dans la capitale des Gaules. Il n'y aura plus que quelques reporters locaux sur le terrain en Afrique, pour qu'Africa News ne soit tout de même pas une chaîne africaine fabriquée en Europe.
Certes, on termine avec Énergie qui ne veut plus faire de télé.
Selon le magazine Capital, le patron du groupe Énergie vient de demander à une grande banque d'affaires de trouver un repreneur pour ses deux chaînes de télé. Il y a d'abord Énergie 12, la chaîne des pré-ados et des ados. Programme phare, Les Anges. Extrait.
À Dubaï, pour Virgile, la cohabitation avec son ex Chloé est très compliquée.
Lâche rien, t'es un guerrier.
Ah, la tête de ma mère, je suis toute
forte. Bébé, rentre en France et fais pas chier.
Tu vas faire
ça. Ça me gave, en fait, ce petit cinéma là.
Sauf que les bimbos et les beaux gosses au langage châtier, eh bien ça ne marche plus très bien ces temps-ci. Et quand on est jeune, souvent, on n'a pas toujours un sou pour acheter habits à la mode et appareils dernier cri. Bref, ce n'est pas très intéressant pour les annonceurs. Énergie 12 est à peine 1,5% de part d'audience, alors que la chaîne pouvait monter jusqu'à 2,5% il y a encore quelques années. Dans le groupe, il y a aussi Chérie 25, la chaîne à destination des femmes.
Chérie 25, comment va-t-elle?
Cette semaine, rencontre avec ces couples dont l'amour est quasi impossible. Extrait de l'émission Tellement Vrai.
Malgré les critiques, le couple veut coûte que coûte vivre pleinement cet amour. Jean-Claude a déjà été marié 3 fois et est père de 3 enfants, dont 2 sont plus âgés que Justine.
Là non plus, la chaîne peine à convaincre. Chérie 25 plafonne à 1% d'audience. Le groupe Énergie réclamerait au moins 300 millions d'euros pour se débarrasser des canaux 12 et 25.
Martin Cangelosi, merci.
En I aussi.
Ouais, bah oui, tout est en I ce matin. À demain pour mon titre du jour, spécial dédicace à notre stagiaire Osema Kimisi, encore un I, qui en a marre des vieilleries. Alors, Rihanna.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Rihanna Diamonds dans Culture Média. Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, est annoncé. A tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Comme souvent avec Mediapart, pure player indépendant, la forme importe. N'est-il pas vrai que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface? Et à la surface, il est un site sur abonnement. Bonjour Fabrice Arfi.
Bonjour.
Pour le coup, fond et forme cohabitent dans la série que vous venez de lancer et qui s'appelle le Squall Opération Secrète. On va tout de suite décrire les protagonistes de cette histoire. Le Squall, c'est le surnom de Bernard Squarcini. Vous nous rappelez son pédigré pour commencer?
Oui, Bernard Squarcini, c'est ce qu'on appelle un grand flic, du moins un ancien grand flic, a notamment été le chef des services secrets intérieurs français sous Nicolas Sarkozy. C'est le créateur de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, la DCRI, qui s'appelle aujourd'hui la DGSI, et qui s'est reconverti dans le privé sitôt qu'il a été exfiltré, on va dire ça pudiquement, de ses fonctions.
Ce qui est légal.
De se reconvertir en privé, absolument. Bien que ça puisse poser des questions sur le pantouflage d'un certain nombre de ces grands flics pour des intérêts privés. Et c'est notamment le cœur de ce que nous allons questionner avec cette série de podcasts audio.
Alors, on décrit toujours les personnages. D'un autre côté, voici François Ruffin. Avant d'être député insoumis d'Amiens, Ruffin dirigeait le journal indépendant et militant Fakir. Il avait tourné, on s'en souvient, le documentaire Merci Patron, sorti en 2016 et auréolé d'un César. Son obsession à l'époque à Ruffin, Bernard Arnault, via un couple licencié d'une entreprise sous-traitante de LVMH. L'an dernier, Fabrice Arfi, Mediapart révélait que Fakir avait été espionné par un cabinet de renseignement privé, possiblement lié à LVMH. Alors, la nouveauté dans la série que vous lancez, c'est que vous avez la preuve par le son, c'est ça, si j'ai bien compris?
Exactement, c'est-à-dire que pour la première fois, nous faisons une enquête en exploitant d'un point de vue sonore et audio des écoutes judiciaires qui ont été faites dans un dossier et désormais versées dans le dossier de l'affaire dite LVMH, qui viennent apporter la preuve de la bouche du cheval, si j'ose dire, c'est-à-dire des principaux protagonistes, de l'implication des uns et des autres dans un certain nombre de faits extrêmement embarrassants qui ont pourtant été démentis en procédure. Et c'est d'autant plus impressionnant que les écoutes qui structurent un peu le podcast d'enquête que nous avons fait et dont nous ne publions évidemment que les informations vérifiées et d'intérêt public.
C'est toujours d'intérêt public pour Mediapart.
Hein. Non, c'est d'intérêt public quand on le publie. En tout cas, c'est comme ça que nous l'assumons. Le reste, nous le gardons évidemment pour nous. Après qu'il y ait des débats et des polémiques, pourquoi pas, et nous y répondons évidemment avec plaisir. C'est d'autant plus impressionnant que ces écoutes ont été pour une bonne part ignorées par la police. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été retranscrites dans le dossier.
Pour quelle raison, on ne sait pas ?
Eh ben, c'est une raison qui mérite d'être questionnée. Donc nous avons des juges qui sont aveugles à leurs propres éléments factuels, à leurs propres preuves, ce qui laisse une liberté à certains protagonistes, notamment M. Bernard Arnault, qui a été entendu comme témoin dans ce dossier.
Et qui n'était pas au courant.
Ben, qui n'était pas au courant, alors que ce que nous diffusons prouve que c'est non seulement la présidence de LVMH qui a demandé l'espionnage et l'infiltration de François Ruffin et du journal Fakir, et qu'il y avait des notes qui remontaient jusqu'à Bernard Arnault himself.
Alors on va écouter tout de suite un extrait de, je ne sais pas comment qualifier l'objet de 26 minutes que vous produisez, du son c'est sûr, et à l'image un texte qui défile et que vous lisez, Fabrice Arfi, à l'oreille en tout cas, ça donne ça. Nous sommes au moment où François Ruffin envisage de perturber l'Assemblée Générale de LVMH au carrousel de Louvre. Squarcini a une solution, nous sommes en 2013.
Quelques jours plus tard, le 11 mars, le numéro 2 de LVMH, Pierre Godet, s'inquiète des opérations de Fakir contre le groupe.
On peut introduire quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils font un appel au peuple, hein, un peu.
Oui, oui, j'ai vu, mais après, c'est sous le manteau, hein. Attention. Hein.
Du coup, Fabrice Servi, où est la nouveauté de votre feuilleton de l'été, outre la forme dont on va parler ?
Ouais. Ah bah chaque épisode, il y en aura 5 au total, comporte des révélations sur le fond de chaque dossier que nous allons aborder.
Des révélations par le son.
Des révélations par le son, mais
vous êtes fort en son là. Comment vous vous débrouillez, Mediapart, pour toujours récupérer des sons vous êtes connecté sur les grandes oreilles ou...
Non, pas du tout. Non, mais on ne récupère pas que des sons. On récupère tout ce qui comporte de l'information. C'est-à-dire, on publie des rapports, on publie parfois des échanges, on publie des documents, des notes, enfin tout ce qui permet de structurer, depuis que le journalisme est journalisme, des enquêtes documentées. Et c'est vrai qu'à l'époque du numérique, ça nous permet, pour un site internet, d'avoir une sorte d'information en 3D où l'écrit peut être supporté par les documents qui permettent de dire au lecteur, regardez ce sur quoi nous nous basons pour pouvoir produire ce que nous produisons.
Dans votre commentaire, il y a une phrase très étonnante, je la cite, il va sans dire que la révélation de ces informations ne préjuge de la culpabilité de personne et que tous les protagonistes mentionnés sont présumés innocents. Quelle prudence, quelle précaution, il va sans dire.
Oui, mais c'est la...
Alors attendez, pour la réponse, je fais un petit suspense, hein, un peu comme Mediapart qui fractionne. Moi, je fais un feuilleton aussi. Rendez-vous, non pas dans une semaine, mais après la pub. Nous sommes avec Fabrice Arfi.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
LVMH espionnait donc le journal de François Ruffin Fakir par l'entremise de Bernard Squarcini. C'est le sujet de ce nouveau produit que vous lancez, Mediapart. Le second épisode sera en ligne ce soir. Alors, on revient à cette phrase prononcée par vous, Fabrice Arfi, dans le premier épisode de cette série La Squale, opération secrète, que vous présentez, il faut le signaler, avec Pascal Pascariello. Tous les protagonistes mentionnés sont présumés innocents. Que nouveau une telle précaution de langage, on n'est pas habitué.
C'est très 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 souvent le cas. C'est une raison très simple, c'est que nous ne sommes pas magistrats, nous ne sommes pas policiers. Notre objet social n'est pas de démontrer la culpabilité pénale de quiconque. Notre objet social, quand on est journaliste, c'est de mettre sur la table des informations vérifiées et d'intérêt public, susceptibles d'alimenter une conversation, conversation publique. Est-ce que des magistrats vont s'en emparer et les qualifier pénalement ou pas ? C'est pas à nous de le dire. Je suis pas prophète. Et donc,
il me semblait que c'était nouveau quand même. Cette précaution de langage.
Non, ça arrive très fréquemment dans le journal. Et c'est d'autant plus important que ce qu'on décrit au-delà de l'espionnage et l'infiltration même, qui est commanditée par une multinationale d'un tout petit journal qui fait paniquer la plus grande fortune française, grosso modo, parce que ces joyeux de riz ont des t-shirts « I love Bernard », c'est aussi comment une partie de la fonction publique policière et des services secrets est dévorée par des intérêts privés. Comment ceux-là même se mettent à genoux devant une entreprise comme LVMH, par l'entremise, d'un homme, Bernard Squarcini, qui n'est plus dans la police et qui pourtant récupère des informations du cœur de la police pour les donner à la multinationale contre un tout petit journal engagé de la région d'Amiens.
Ce sont des pratiques répandues ou vous diriez que c'est une première ?
Non, je ne dirais pas que c'est une première. Je dirais que c'est la première fois que nous pouvons le documenter de manière aussi éclatante. C'est-à-dire que la porosité qui peut exister entre la fonction publique et certains intérêts privés. Et là, on ne parle pas de n'importe quelle fonction publique, on parle de la police. Enfin, on entend quand même Bernard Squarcini mettre en branle des services d'État, y compris même des services étrangers, au seul profit de LVMH. Je crois, sans vouloir faire de la forfanterie déplacée, mais je crois qu'on n'avait jamais prouvé cela de cette manière-là. Et en réalité, on n'a pas grand-chose à faire, puisque c'est eux-mêmes qui en parlent le mieux.
Oui, ça, certes, il faut écouter, c'est très direct. Alors sur la forme, Fabrice Arfi, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'innover, c'est-à-dire votre voix qui lit un texte qui défile plus du son ?
Non, j'ai pas du tout la prétention d'innover, disons que...
C'est un côté même un peu, vous voyez, un peu ancien comme formule.
Je crois dans les vieilles marmites qu'on fait parfois les meilleures recettes. Non, on n'a jamais dit que nous innovons de ce point de vue-là. Ce qui est une innovation, c'est que nous structurons un récit de révélation journalistique à partir de la diffusion d'extraits d'écoute judiciaire. La meilleure façon de le faire, avons-nous pensé, c'est de raconter cette histoire avec, alors pour le coup, ma voix, puisque c'est moi qui ai mené l'enquête et vérifié tout ça, comme on pourrait le faire dans une chaîne de radio. Bien sûr, il y a tout un appareillage écrit autour de tout ça. Nous sommes un site internet.
Est-ce que vous auriez pu faire, pardon, un podcast, juste le son qu'est-ce que ça apporte de voir le texte défiler ?
Ah, bah je pense que ça permet notamment parfois, quand il y a des phrases... Bah, je vais vous donner un exemple très précis dans l'épisode dont nous parlons sur Fakir. C'est le 7 mars 2013 que le vice-président, qui est en fait une espèce de co-numéro 1 de LVMH, M. Pierre Godet, qui est décédé en 2018, commandite l'infiltration de Bernard Squarcini. Et quand il dit « Est-ce qu'on peut les infiltrer ?» Non. La voix est un peu recouverte par celle de Bernard Squarcini. En le lisant en même temps qu'en l'entendant, on l'entend mieux parce qu'on le lit en même temps. Donc on s'est dit qu'il y avait une volonté de retranscrire
ce
qui était dit.
Oui, ça c'est pour les propos, ouais. Mais bah pour votre commentaire.
Ah ben, moi je fais du commentaire parce qu'il y a besoin de contextualisation, parce que ça ne sort pas de nulle part, parce que j'ai enquêté pendant des mois pour pouvoir dire que bah, voilà ce que vous allez entendre. En fait, il y a une histoire avant, il y a une histoire après. Voilà ce qu'on peut prouver, voilà ce qui reste encore... questionnable. Donc, bien sûr, j'enrobe, comme dans un documentaire à la télé, on enrobe parfois les images qu'on va voir pour pouvoir leur donner du sens. Il faut bien qu'on donne du sens aux informations.
Alors, on va reprendre l'hypothèse de départ. Le fond est aussi quasiment important que la forme pour Mediapart. Est-ce que vous souscrivez à ça? Et est-ce que, du coup, ça vous oblige à certaines choses?
Bah, vous avez ouvert cette émission sous les auspices de Victor Hugo et de sa phrase « la forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Oui, ça me paraît une phrase légèrement juste, comme certaines de très nombreuses écrites par Victor Hugo. Mais ça nous oblige à rien d'autre que ce que la loi du 29 juillet 1881, qui est le code de la route de la pratique journalistique devant la loi, nous oblige. Je veux dire, nous sommes extrêmement légalistes. Je suis pour la responsabilité pénale des journalistes. J'estime que les journalistes ont à répondre de ce qu'ils font devant la justice. Les juges sont les gardiens de la liberté dans ce pays, les juges indépendants. Et donc, nous faisons comme n'importe quel autre journal. Nous publions et nous assumons, y compris devant les tribunaux, ce que nous faisons.
Fabrice Arfi, est-ce que les limiers de Mediapart, dont vous faites partie, sont déjà sur la piste d'affaires, pouvant éventuellement concerner certains membres du nouveau gouvernement Castex, voire le Premier ministre lui-même? Comment travaillez-vous? Quand vous avez comme ça un peu de chair fraîche, disons, hein, des nouvelles têtes.
Non, mais on fait pas, on n'est pas.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Non, c'est pas une partie de chasse et c'est pas du ball-trap, ni du tir au pigeon. C'est-à-dire que nous, il y a une chose publique, il y a une conversation publique autour d'un certain nombre de questions qui vont de la lutte contre la corruption à l'environnement, à la santé, à tout ce qu'on veut, au monde économique, au monde social, etc. Et le propre de notre métier, c'est de le raconter tel qu'il est. Et donc, parfois, ça tangente la vie d'un pouvoir exécutif, parfois pas. Mediapart, c'est un journal aujourd'hui, une entreprise où il y a plus de 100 personnes. Donc voilà, nous produisons une information qu'on espère totale, la plus vérifiée, la plus d'intérêt public possible. Donc non, on n'a pas, quand il y a un nouveau gouvernement, on ne joue pas aux fléchettes avec des nouvelles cibles. Et il arrive que nous ayons des informations qui ensuite permettent d'alimenter le débat démocratique. Et bien tant mieux, et c'est pareil à Europe 1, c'est pareil partout, je crois.
Le nouveau garde des Sceaux, comme Éric Dupond de Moretti, vous intéresse, a priori?
Il nous intéresse beaucoup et je crois que nous l'intéressons pas mal aussi.
Puisqu'il
a fait beaucoup de déclarations pour dire tout le bien qu'il pensait de Mediapart, dont il avait comparé les supposées méthodes aux méthodes staliniennes, ce qui montre un peu le grand cas que le garde des Sceaux aujourd'hui fait de la liberté d'informer dans ce pays.
Le Squall, opération secrète, série sur Mediapart, deuxième épisode ce soir, 5 au total. Merci Fabrice Arfi d'être passé par Culture Média. Variété des sujets traités, à suivre le producteur du feuilleton de France 2, Ainsi Grand Soleil, s'aimer, se déchirer sous Covid. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Pascal Clark.
Et soudain, à 10h-20 sur Europe 1, Ainsi Grand Soleil, générique. Ainsi Grand Soleil, feuilleton quotidien de France 2, 20h45, le feuilleton déroulait ses intrigues, ses arches du côté de Montpellier, entre la paillette de plage, l'hôpital, le commissariat, l'entreprise Elle Cosmétique, une quarantaine de personnages récurrents collant aux problématiques du moment. Quand dans la vie s'est invité le coronavirus, interruption, place à l'info. La diffusion d'Ainsi Grand Soleil a repris le 1er juin en même temps que redémarraient les tournages. Bonjour Thomas de Mattei.
Bonjour Pascal.
Merci de passer par Culture Média. Vous êtes le producteur d'Ainsi Grand Soleil et vous êtes un défroqué de Plus belle la vie. Hein ?
Tout à fait. dont je fus un des producteurs, le producteur artistique pendant quelques années.
Voilà, vous êtes passé de Marseille à Montpellier. Quel casse-tête, hein ? À quoi est-ce que le Corona vous a donc obligé?
D'abord, un peu de réflexion, en fait.
Quand ça tombe, il se passe quoi?
Alors, quand ça tombe, d'abord, il y a un petit choc, une conversation avec la présidente Delphine Ernotte qui me dit que, voilà, il faut que je choisisse le meilleur moment pour arrêter, mais que là, il faut s'arrêter maintenant. Donc, on s'arrête un petit peu avant les autres, en fait. Mmh. On s'est arrêté le vendredi qui précède l'annonce présidentielle qui viendra quelques jours plus tard.
Il faut s'arrêter pour laisser la place à l'info. C'est pas que le feuilleton devienne...
Il faut s'arrêter à l'antenne pour laisser la place à l'info et il faut s'arrêter physiquement parce qu'il n'est pas question de mettre les personnels en danger et que là, on est en train de rentrer dans une phase dont on ne sait pas très bien combien de temps elle va durer. Un principe de précaution qui est appliqué et qu'on avait déjà un peu anticipé, une partie de nos équipes était en télétravail depuis une dizaine de jours. Mais effectivement, tout s'arrête. Alors, quand c'est vous, le producteur, qui avez monté cette machine et tout ça, il y a un petit moment de sidération.
Ouais, il y a un rythme très précis, j'imagine, quand on produit tous les jours.
Oui, on est dans une rythmique permanente et en fait, on s'en aperçoit presque même plus. C'est notre quotidien, c'est le quotidien de la série et de sa fabrication. Donc là, il y a un long moment de sidération et en même temps, ce qu'on s'est assez vite dit avec l'ensemble des équipes, c'est que de cette période, il faudrait essayer de tirer quelque chose de positif. Et donc, on s'est remis à travailler en fait très très vite dans la perspective de reprendre à un moment dont on ignorait évidemment... lequel il serait, mais...
Alors, reprise le 1er juin, et depuis, alors on voit pour l'instant les épisodes tournés avant le confinement, on a le décompte en début de chaque épisode, après le générique, hier soir, on était à confinement J-25, c'est quoi l'idée, la réalité pour la suite, quoi ? Vous allez devoir intégrer le coronavirus dans l'intrigue.
Alors, l'existence du coronavirus va être intégrée à la série. Après, alors, ça vous le verrez dans 25 épisodes, je ne peux pas trop vous en dire
aujourd'hui.
Oui, mais
un petit indice. Débarquer d'une manière ou d'une autre.
Alors, il va débarquer très clairement et nos personnages vont être impactés. Maintenant, pour être clair et pas...
Il va y avoir des malades.
On va pas faire très long sur le confinement. Ce n'est pas le propos de la série. Je pense que malheureusement, le confinement, tout le monde l'a bien vécu.
Mais comme il y a un hôpital,
le personnel de l'hôpital sera nécessairement impacté par la réalité de ce que les soignants du pays ont vécu. Alors toujours dans la fiction, de la manière dont nous on le fait. Donc on n'est pas à la recherche du vérisme à tout prix. Mais nos personnages...
Du vérisme
L'objectif, ce n'est pas de coller à la réalité. Nous, on fait une série de fiction. Donc on a des personnages qui s'ébattent dans un univers qui ressemble étrangement au monde dans lequel vous et moi nous vivons.
Oui, mais vous collez quand même, c'est même ce qui fait un peu le charme de cette série, c'est que on sent que d'ailleurs pendant la diffusion là, il y a eu vous collez aux événements, donc il y avait des personnages qui avaient le ruban rouge à un moment donné, sauf que la journée nationale de lutte contre le sida, elle est passée à l'asthme. Enfin bon, c'était en boîte.
Alors on colle pas tout à fait aux événements, on reste un crusté dans l'actualité calendaire comme Noël, comme le jour de l'an. On a des petits moments comme ça qui reviennent. Mais globalement, par rapport à d'autres séries quotidiennes, on n'a pas du tout fait le choix d'essayer de raconter la France au quotidien, jour après jour.
Non,
on est
vraiment
plus plongé dans des arches et des histoires de personnages qui dépassent un peu le réel et qui pourtant sont ancrés dans le réel au quotidien. Mais
Thomas de Mattei, ça donne quoi un tournage d'une série sous virus quand même? Vous n'allez pas nous fabriquer un petit cluster du côté de Montpellier?
Alors on s'efforce d'éviter ça à tout prix. Donc on a depuis plusieurs semaines avant la reprise, on s'est doté d'une équipe de médecins qui nous accompagne et qui nous aide aussi bien sur les procédures à mettre en place pour éviter que le virus ne puisse se transmettre transmettre.
Quand deux personnages s'embrassent, par exemple, ils sont testés avant.
Alors aujourd'hui, ils ne s'embrassent pas.
Ils vont plus s'embrasser.
Malgré ce que disait l'ancien ministre de la Culture, Franck Riester, disant que maintenant, le cinéma, les baisers étaient revenus, en tout cas sur les plateaux de fiction de télévision, pour l'instant, ils ne s'embrassent pas. Non.
Ah, il n'y aura plus de baisers pour l'instant.
Pour l'instant, il ne va pas y avoir beaucoup de baisers. On va trouver d'autres manières de suggérer l'affection entre les personnages. Mais effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. C'est-à-dire que beaucoup des actions humaines sont retranscrites par des gestes et physiques dans lesquels on se touche, on s'embrasse, on se secoue même parfois quand les émotions sont à l'inverse.
Plus ça, coucherie dans un si grand soleil. Je ne m'en remets pas.
Vous verrez, on a su travailler pour que le public continue à éprouver les sensations qu'il éprouvait auparavant. Maintenant, les réalisateurs ont fait œuvre de beaucoup de créativité pour arriver, malgré le dispositif technique, à trouver des solutions pour quand même transmettre l'émotion au spectateur.
Un si grand soleil regardé en moyenne chaque soir par 3 700 000 personnes. 3,09 millions hier soir, 16,8% de part de marché, ça va ?
Oui, ça va, on est à un moment là où il y a un peu moins de monde, mais globalement, oui, on a de beaux chiffres, on est très contents.
Dans un instant, on va appeler le comédien Fred Bianconi, il joue Virgile et Virgile ne va pas très bien. A tout de suite, un si grand soleil revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Virgile, le copropriétaire de la paillote de plage, est au plus mal. Il a perdu sa fille Léa dans un incendie. Bon, au passage, c'est parce que la comédienne voulait quitter la série. Virgile à la dérive, pas du tout, on va y revenir. Virgile à la dérive, tentative de suicide. Aux dernières nouvelles, il vient de quitter Montpellier avec une nouvelle belle. Bonjour Fred Bianconi.
Bonjour Pascal, bonjour Thomas.
Oui,
bonjour Fred.
Nous sommes avec votre producteur Thomas de Mattei. Vous jouez Virgile dans Un si grand soleil à la diffusion, donc vous venez de quitter Montpellier, peut-être bien pour Bali. Du coup, émotion sur la toile, reviendrez-vous dans la série ?
Bah écoutez, ça forcément, vous savez, dans ce type de série, on est toujours à la merci des auteurs, mais je crois qu'ils ont bien l'intention de prévoir quelque chose. Et puis bon, comme on est en tournage... sans vouloir dévoiler trop de choses dans le suspense, il n'est quand même pas improbable que Virgile repointe sa tête. Est-ce qu'elle sera en meilleure forme ou pas ? Il y a des chances qu'il soit au moins bronzé.
Alors rassurez-nous, Fred Bianconi, est-ce que vous avez tourné depuis le 1er juin ?
Depuis le 1er juin, considérons que oui, ça casse un petit peu du suspense.
Tu peux le dire.
Vous avez le feu vert, allez-y.
Je me méfie toujours de ce qu'on a le droit de dire.
Non, mais tu peux.
on a repris le tournage, absolument.
Alors, ces nouvelles conditions, là, ça fait bizarre, non ?
Ah ben, les conditions, oui, on peut dire que c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, on répète les textes avec des masques. On fait toutes les répétitions. Quand il s'agit de tourner, on se démasque. Si jamais on doit se toucher la main, toucher un sac, et ben là, on se remasque. Gel hydroalcoolique, on touche le sac, ils ont calé un gros plan. Gel hydroalcoolique... on enlève le masque et on reprend la scène, quoi. En gros, c'est ça le principe.
Et on s'habitue ? On s'habitue à tout quand on est comédien ou ça fait quand même bizarre ?
Évidemment, ça fait bizarre, mais on s'habitue à tout comme on s'habitue au rythme de tournage d'un si grand soleil qui est un rythme assez dense, mais qui est hyper intéressant en fait pour un acteur parce qu'il nous oblige à être sur le coup immédiatement. On enchaîne des prises... le temps qu'on peut, et puis il y a un truc un peu frustrant d'un coup de cette voix du premier assistant qui nous dit bon allez on passe à la séquence suivante, mais non attendez. Oui c'est quand même très très agréable. Après les conditions elles sont ce qu'elles sont, elles sont là aussi pour nous protéger, faire en sorte que le tournage puisse avoir lieu, quoi. Donc évidemment on s'y plie, on s'y adapte.
Thomas de Mattei nous disait à l'instant que il y a plus de baisers hein. Pour l'instant, sur le feuilleton, comment vous exprimez alors ? Sans les gestes.
Pour ce qui est de Virgile, en fait, le problème est moindre parce que bon, il a quitté Montpellier avec une envie de plus voir personne, donc il revient finalement quelques temps plus tard et cette envie d'être seul par rapport à lui-même. Et être face à lui-même finalement est assez présent, donc c'est pas celui qui a le plus de contact, si vous voulez.
Effectivement, alors un petit indice quand même, est-ce que Virgile va aller mieux bientôt ?
Je me permets, Fred, d'intervenir, si Virgile est revenu, c'est pour vivre. S'il avait dû s'abîmer définitivement, il serait resté là où il était. Donc je
non,
pense
il aurait,
que
il aurait pu disparaître à Bali et puis revenir.
Il aurait pu. Tout à fait. Ça, c'est,
ah bah oui.
ça fait partie bon, des péripéties.
On
ne saurait
pas
arranger
Fred Bianconi.
De nos personnages. Non, et nous non plus d'ailleurs, parce que et le personnage de Virgile et Fred, à titre personnel et à titre d'acteur, est quelqu'un avec qui moi j'aime beaucoup travailler. Mais en plus, le personnage de Virgile, c'est une trajectoire. C'est un parcours qu'on a construit pendant presque 2 ans avec Fred. Et l'idée, c'est de continuer ce travail ensemble, tel qu'on a pu le faire. Les chapitres des histoires de Virgile qui viennent au milieu des chapitres des histoires des autres personnages, mais d'un personnage qu'on suit de manière constante.
Merci à vous,
d'ailleurs,
Fred Bianconi, allez-y.
Ouais, à ce titre, je remercie également Thomas et les auteurs d'avoir construit un truc pareil.
Ah, c'est bon, là, on n'a pas de temps.
Non, mais
là,
dans une carrière d'acteur, de pouvoir interpréter un truc pareil, c'est-à-dire la perte d'un enfant sur une durée aussi longue, c'est extraordinaire.
C'est
bon, merci.
Merci à vous, Fred Bianconi. On vous souhaite longue vie dans la peau de Virgile. Thomas de Mattei, vous avez tiqué quand j'ai dit que si Léa, le personnage de Léa, avait péri dans un incendie dans le feuilleton, c'est parce que la comédienne voulait quitter la série. C'est pas vrai ?
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est malheureusement pour cette association de travail qui était la nôtre, c'est un choix que nous avons fait nous. Et dont elle a été presque victime, en l'occurrence, puisque Marthe est une super comédienne et qui n'avait pas particulièrement envie de quitter la série.
Vous l'avez tuée comme ça ?
Oui, alors pour nous, c'était important de refonder le pacte avec nos téléspectateurs, de partir du principe que les personnages...
Ah, vous savez, on n'a pas besoin de mort pour le pacte. Hein.
Oui, alors nous, on avait une tendance à penser que nos personnages ne devaient pas apparaître comme immortels au fil du temps. Et qu'il était important que la mise en danger de ces personnages persiste dans l'esprit des téléspectateurs.
Ouais, bah faites mourir les vieux quand même, pas. Elle avait 24 ans à peine, ou moins même pas, elle avait quel âge ?
Le personnage avait 16 ans. Donc,
oui, 16 ans, qu'est-ce que je raconte ?
C'est terrible, c'est terrible, c'est une histoire terrible.
Mm-hmm. Vous allez faire mourir d'autres gens prochainement ?
C'est pas forcément à l'ordre du jour, non. C'est pas une série où on meurt
non.
beaucoup.
On est, on vit, on meurt. Hein.
Oui, ouais. On meurt un petit peu. Il y a effectivement des personnages qui nous quitteront à un moment ou à un autre. Mais
c'est
on
vous
pas,
qui
on
décidez,
on pas
vous
lancé.
Rendez compte.
Alors c'est pas que moi, c'est un travail très collectif avec l'équipe d'auteurs avec qui je travaille et dont et que je remercie d'ailleurs au passage, Olivier Sulzinger en tête, qui en plus d'être le chef des auteurs est mon coproducteur. Mais c'est un travail très collectif qu'on fait et on cherche les meilleure solution possible pour offrir cette série aux téléspectateurs tous les soirs.
Et Ainsi Grand Soleil est à l'antenne tout l'été.
Je vous remercie, Pascal.
Bah ouais, ça fait du boulot. Merci beaucoup, Thomas de Mattei, d'être passé par Culture Média. À suivre après 10 heures, le comédien, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National d'Angers, Thomas Joly, théâtre malgré le virus. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.